l'autre.
T'as posé une question assez marrante, JC, c'est que en 2012, le clip pour avoir les Jeux dans la candidature française, il était fait par Luc Besson. Dedans, il y avait Catherine Deneuve, Depardieu. Il n'y avait pas un seul sportif. Ça a gêné personne. Et là, aujourd'hui, ça gêne tout le monde.
Oui, mais c'était Catherine Deneuve, toi.
La dernière intervention, elle est intéressante. C'est-à-dire que
celle d'avant, non, mais parce que
c'est les artistes. Non, mais c'est les artistes. Ça dépend de quel artiste, en fait.
Oui.
Parce que quand on a mis 5 millions d'euros pour ce clip, et que les Anglais ont fait différemment pour avoir la candidature et pour avoir les Jeux, eh ben, faudrait se poser la question.
Du lobbying que nous, on savait pas faire.
Ouais, ils ont pas mis 5 millions d'euros dans un clip.
Hein? Non, mais, oui, mais ça, on était complètement à la ramasse. Mais c'est pas en mettant des symboles de l'Angleterre, c'est en allant chercher les trucs, en allant chercher les votes un par un, en étant très, très offensif.
C'est la chance,
qu'ils
m'a dit d'arrêter.
Ouais, hein? Mais on a compris, vous n'êtes pas d'accord sur cette question et c'est pour ça qu'on vous a proposé ce débat. Les symboles des JO doivent-ils revenir aux sportifs? C'est une victoire de Christophe Cessieux et Pascal Duprat car vous êtes monté à 63%. 63% oui, 37% non. Voilà, c'est la fin de ce...
Vive la partie des boomers, mon cher Pascal. On est là, on est encore là. On nous a pas tous encore mis au cimetière.
Vous dire, j'ai eu la chance d'être à Marseille avec RMC et c'était une fête absolument remarquable.
Mais c'était magnifique. Mais c'était magnifique.
Non, mais c'est important
entièrement
de dire
d'accord.
Parce que on retient les
entièrement
polémiques
d'accord.
Mais sachez-le, on en parlera dans cette émission. C'était une fête absolument
et
exceptionnelle,
voilà.
Et bravo pour le comité d'organisation qui a souvent été critiqué. Là, c'était réussi. Après, à 2-3 détails près, on peut chipoter comme toujours. Nous sommes en France, messieurs dames.
RMC, les grandes gueules du sport.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
Dès 9h, les grandes gueules du sport en direct du Mans pour le Grand Prix de France Moto. 12h15, cyclisme, la 9e étape du Tour d'Italie. 14h, retour à la MotoGP pour le départ du Grand Prix. Et à 21h05, rugby, le choc de la 23e journée de Top 14, Stade Toulousain, Stade Français Paris.
RMC, numéro 1 sur le sport. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport.
Grâce à lui, notamment, le MHR est passé de dernier à avant-dernier, une progression légère, vous me direz, qui laisse le club de Montpellier dans une position fragile, celle de barragiste. À 4 journées de la fin du top 14, Bernard Laporte, le directeur du rugby, a décidé d'attaquer ses prédécesseurs. Dans une interview au Midi Libre, pour expliquer les mauvais résultats depuis son arrivée au club, il y a 6 mois, c'est la punchline des GG, rapportée évidemment par notre copine Siri, la rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
Ce n'est pas normal qu'on soit tributaire de 3-4 joueurs avec une très grosse masse salariale d'ensemble. Cette équipe est complètement déséquilibrée. Celui qui a fait cette équipe est un escroc. Je l'ai toujours dit, c'est inadmissible, on le paye cash. Ce n'est pas la faute de cette équipe mais de ceux qui l'ont bâtie. Je me demande ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est un truc de fou. Les mecs qui ont fait cette équipe n'ont pas compris qu'il faut des leaders. Ils ont recruté pour recruter.
J'adore quand Siri se met à la place comme ça de Bernard Laporte. Et oui, Siri, c'est un truc de fou. Bernard Laporte, se cherche-t-il des excuses? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Marie Martineau?
Clairement oui.
Pascal Duprat?
Oui.
Olivier Giraud?
Je sais pas dire.
Tu hésites?
Oui, parce que... oui, j'hésite un peu.
Ok, tu veux prendre la main ou pas? Tu veux entendre avant de te prononcer? C'est rare, hein, je sais que tu veux plutôt faire la synthèse.
Non, bah vas-y. Je vois dans cette histoire, évidemment, la situation personnelle du professionnel qui est Bernard Laporte. Hein, il n'est plus président, hein, il est aujourd'hui...
Directeur du rugby.
La situation au MHR, elle est toujours fluctuante, elle monte, elle descend. On s'en souvient quand il y avait Philippe Saint-André qui avait récupéré une année où c'était catastrophique et l'année d'après, ça a bien été. Et là, on parle tout simplement aussi de la construction d'un club et le temps qu'il prend à se construire et à devenir performant et récurrent, comme les Toulouse, par exemple. Aujourd'hui, Toulouse est un modèle dans la récurrence de ses victoires. Aujourd'hui, Bernard Laporte aussi était le président de la fédération. On va pas se mentir. Il y a eu aussi beaucoup d'antagonistes entre la population du rugby pendant tout ce temps-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc juger la punchline de Bernard Laporte parce que c'en est une. Le mot escroc est un mot qui est fort. Et c'est un mot qui revient souvent lorsqu'on parle du rugby. En général, on se traite d'escroc de temps en temps. C'est les petites phrases qu'il y a dans le rugby. Et que ça ressemble beaucoup quand même à des comptes qui se règlent entre gens qui se connaissent depuis très très longtemps. Donc n'essayons pas trop d'être surpris par la réaction de Bernard Laporte. Elle n'est pas que effective par rapport à sa situation personnelle au MHR, mais aussi très clairement.
Et tu me dis qu'il a
mot caché, c'est des règlements de compte.
Et tu me dis qu'il a le droit de se plaindre d'un effectif qu'il n'a pas choisi.
Ouais, donc, ça fait...
Mais ça, tu le sais quand t'arrives, tu sais quand t'arrives.
Bah déjà, et puis ça fait 6 mois, et puis il en a fait des changements. Il est quand même rigolo, il parle de ses prédécesseurs, on a compris de qui il parle. Je trouve que c'est
Philippe
vraiment... Bah évidemment, il parle de Philippe Saint-André. Et excusez-moi, mais ils étaient champions d'Europe en 21 et champions de France en 22. Montpellier, enfin, il y a un moment donné, tu peux pas dire c'était tout pourri. Et si lui, aujourd'hui, il avait réussi en 6 mois à les sortir du trou, vous pensez vraiment qu'il dira ah, c'est quand même grâce à Philippe Saint-André parce qu'il avait fait du bon job avant que j'arrive.
Bravo,
ah, franchement, de quoi on parle, c'est... Mais là, pour le coup, moi, j'étais très surprise parce que j'ai peu d'estime pour ce monsieur parce qu'on ne parle que de ses affaires depuis un moment, mais je ne savais pas qu'il était encore capable de remettre une pièce et d'être si bas. C'est petit, c'est vraiment petit. Et on ne touche pas à Philippe Saint-André, pétard.
Ok, l'émotion qui prend le dessus parfois dans nos analyses. Christophe Cessieux.
Alors moi j'ai toujours eu de la sympathie pour Bernard, je le cache pas, j'ai travaillé pendant très longtemps avec lui, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, mais là franchement je le trouve à côté de la plaque. Je le trouve vraiment à côté de la plaque. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs de casting à Montpellier. Qui n'en fait pas des erreurs de casting? Bien sûr que des garçons comme Guirado, comme Ouedraogo, qui étaient des leaders de vestiaire, qui étaient les deux capitaines du MHR, n'ont pas été remplacés. Et que tu le sais, Pascal ou Olivier, dans une équipe, il faut des tauliers. Ce sont peut-être pas les meilleurs joueurs, mais ce sont des mecs qui te tiennent à vestiaire et qui te font avancer. Ces deux-là n'ont pas été remplacés. Mais enfin, mis à part quelques joueurs, l'effectif qu'on a aujourd'hui, il a un peu bougé, mais c'est à 75% le même qui a été champion de France en 2022, qui a été salué quand même par tout le monde. C'était un exploit incroyable de voir le MHR devenir enfin champion de France sous la férule de Philippe Saint-André. Donc je veux dire, alors ça peut être un miracle, mais enfin devenir champion de France de rugby, c'est quand même il faut autre chose qu'un miracle. Quand il faut un fond de jeu, il faut des joueurs capables. Et alors, ça voudrait dire que les joueurs qui étaient là en 2022 sont devenus des pompes à vélo. C'est un peu ce que nous dit Bernard. Ou... qui n'ont pas été, ceux qui sont partis n'ont pas été remplacés. Ceux qui ont été recrutés n'ont pas été les bons. Bah oui, tu fais des erreurs. Mais il est parti, il est arrivé au MHR. Ils étaient 13e. Il a assuré une belle série de victoires qui lui ont permis de remonter un peu. Et puis derrière, ils ont recommencé à perdre. Ce dont on avait peur au moment où Bernard est arrivé à la tête du MHR, c'est de son armée mexicaine avec laquelle il est venu. C'est-à-dire qu'il est venu avec que des numéros 1, que des entraîneurs numéros 1, des Colazo, des Echeto, de ouais. Des Christian Labitte. C'était tous des numéros 1 dans leur club. On a eu très peur finalement que ça ne prenne pas. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. On pourra poser la question à Julien Landry qui suit le MHR au quotidien. Mais bon, je trouve que c'est un peu facile de balancer sur son prédécesseur. J'aimerais bien entendre Philippe, ce qu'il est là à répondre à Bernard quand même. Nos deux consultants quand même.
Non, mais exactement. Il répondra Philippe, Pascal, et après je te redonne la main Olivier.
En fait, il n'y a absolument pas de parti pris dans la réponse que je vais formuler, parce que je ne connais ni Philippe Saint-André personnellement, ni Bernard Laporte. Par contre, j'apprécie autant Philippe Saint-André comme joueur, comme manager, que j'apprécie Bernard Laporte pour ce qu'il a apporté dans le rugby. J'ai l'impression que ça prouve que Bernard Laporte n'a plus la verve qu'il n'avait. Parce que quand il dit qu'il n'a pas de leader dans son vestiaire, normalement, d'après ce que j'ai compris de son management à Bernard Laporte, d'après ce que certains rugbymen qui ont eu le privilège de l'avoir comme entraîneur me disent, c'est un vrai meneur d'hommes. Donc, quand il y a déficience sur le terrain, logiquement, Bernard Laporte, pour moi, il était taillé pour amener cette.
Oui, surtout que derrière, t'as des Colazo, t'as des Chetto, voilà. Et des Labitte qui sont pareils, qui sont des vrais leaders.
C'est pas.
Se tirer une balle dans le pied.
Oui,
but
un
contre
peu.
Son camp, on appelle ça.
Voilà, peut-être un but contre son camp. Et puis ensuite, tout simplement, c'est pas très fair play de tailler son collègue, même si t'as des inimitiés qui datent certainement depuis de nombreuses années. Ça sert pas la cause, surtout du rugby montpelliérain, parce qu'il faut qu'il se maintienne. Et je crois qu'il n'y a là pour le coup que les joueurs de Montpellier qui peuvent se maintenir. Donc c'est pas aussi le meilleur message qu'il envoie à ses joueurs que de dire que c'est des pommes, quoi.
Transition toute trouvée. Et je te redonne la main, Olivier, pour écouter Bernard Laporte quand il a été nommé directeur du rugby du MHR, c'était en novembre dernier. Il était notre invité avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. Et voici ce qu'il disait. Vous allez voir, ça a une résonance forcément aujourd'hui.
Créer un état d'esprit, créer une unité, je crois que c'est ce qui manque. Et comme je leur disais, une communication positive entre vous, hein, une solidarité exemplaire et une envie d'être les meilleurs. Voilà, quand on se lève et qu'on s'entraîne, il faut chercher à être le meilleur à son poste. Voilà, défendre les couleurs, défendre un territoire, défendre une région. C'est ça qui doit habiter un sportif de haut niveau. Et pas des tracasseries, de gamins, d'égo, etc., etc. Tout ça doit cesser. On doit pousser tous dans le même sens et avoir un objectif commun.
Pardon, mais là, il a fait tout le contraire, non?
Ah.
Non, ça fait réagir personne, Olivier.
Bah, on voulait laisser Olivier.
Écoute... Bernard Laporte, il faut rappeler quand même quelque chose, et je ne le défends pas. La manière dont il a construit le Stade français avec un grand monsieur qui s'appelle Mats Gozzini était basée sur certaines valeurs. Certaines valeurs, c'était construire un état d'esprit de club, que le club est une identité. Moed Altrad est arrivé en 2011 à Montpellier, et que c'était un petit peu son arrivée, le Champions Project du rugby. Et on pensait qu'ils allaient, à grands coups de millions, écraser le rugby français. Sauf que il y a d'autres clubs qui se sont créés et qui ont basé leur construction sur l'identité. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu voyais pas La Rochelle arriver à un tel niveau. Tu voyais pas Bordeaux revenir à un tel niveau. Et surtout, une identité. Tu voyais pas le Racing et le Stade français revenir à un certain niveau. Qu'en gros, le projet et ce qu'il veut retrouver, Bernard Laporte, c'est ce type de projet qui tourne autour de l'identité du club. Et pas seulement l'addition d'individualité qui, aujourd'hui, on le sait,
à quoi ça sert.
De sulfater ses prédécesseurs,
ça ne sert pas la cause. C'est pas ce qui va faire avancer plus rapidement son projet.
C'est-à-dire que faire avancer le projet, de toute façon, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ça ne va pas être le sujet pour le faire progresser. Par contre, effectivement, on doit avouer, on l'accepte ou pas, qu'il y a un petit règlement de compte entre eux. Et ils le font de cette manière-là.
En fait, Bernard est en train de faire ce que Florian Grill fait à la tête de la Fédération française de rugby, en disant que si aujourd'hui on est en déficit, c'est à cause de Laporte qui était là avant. Donc du coup, ils se renvoient tous à...
C'est de la classe. Hein. Voilà.
RMC, les grandes gueules du sport.
RMC partout. RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à tout à l'heure.
La matinale week-end sur RMC avec VVF. VVF, des vacances sport et nature et de belles rencontres pour partager bien plus que des vacances. VVF, des vacances en famille.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez au pas de course, mais GG, des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le carton rouge de 20 minutes qui va faire son apparition. Je parle de rugby, évidemment. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Marie Martineau.
M'en fous pas.
Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Moi non plus.
Nous en parlions la semaine dernière, c'est désormais acté. World Rugby a officialisé ce jeudi le changement de plusieurs règles visant à mettre l'accent à la fois sur le spectacle et la sécurité. Le carton rouge de 20 minutes va être donc introduit, laissant la possibilité à une équipe de remplacer après 20 minutes un joueur expulsé. Alors cette règle va être testée lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans dès cet été. Le bilan sera établi par le comité exécutif de l'instance en novembre prochain, avec une possible instauration de la mesure à plus grande échelle. Je rappelle à tous nos auditeurs que la France s'était prononcée contre cette nouvelle règle. Comme quoi on pèse, hein.
Est-ce que je peux te poser une question dans ce que tu as dit?
Dans ta question.
Est-ce que le joueur qui aura pris carton rouge, lui, n'a pas le droit de re-rentrer, mais on peut faire rentrer un autre
joueur.
C'est ça.
Exactement.
D'accord.
C'est ça. Complément d'information.
Mais écoute, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et les bonnes idées, tu sais jamais si elles vont fonctionner. Mmh. Mais par contre, la mettre en test, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça changerait peut-être aussi certains comportements. Et puis, il y aura peut-être des finales qui seraient un petit peu moins déséquilibrées. Tu vois, au handball, tu peux prendre carton rouge et tu ne rentres plus. Mais un autre pour en rentrer, je trouve ça plutôt logique.
Ok, ça se fait dans ton sport, donc tu valides.
Ouais, mais c'est pas un sport de combat. Moi, j'en peux plus des nouvelles règles et des règles de. Non, mais c'est vrai.
Tu vas fâcher Olivier, là.
Pardon.
C'est pas un sport de combat, c'est vraiment jamais mis les pieds sur la terre de Hunt.
Y a pas de mêlée, ça t'as raison. Mais c'est quand même un sport de contact, vas-y.
Ouais, bah, j'ai rarement vu des traumatismes crâniens avec autant de résultats. Bref. Non, mais trop de règles. Le rugby, c'est une dinguerie. Il y a tellement de règles que même les gens qui suivent le rugby très attentivement, comme Christophe Cessieux, finissent par se perdre parce que ça devient dinguissime. Et je crois qu'il faut vraiment simplifier. Le rugby a besoin d'un choc de simplification.
Ok.
Bon, on avait fait un débat là-dessus la semaine dernière, donc moi j'étais contre, et donc je dis c'est un carton en carton rouge.
Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, merci. Et si vous voulez retrouver l'analyse de Pascal, eh bien c'était la semaine dernière, on en avait parlé. Oui, Christophe.
Oui, ben moi je demande à voir. Voilà, c'est ce que je reste sur la position que j'avais la semaine dernière. Il faut tester le truc. Je sais pas ce que. Alors tout le monde dit ouais, c'est un très mauvais message envoyé aux joueurs violents qui vont s'en donner à cœur joie maintenant, qui vont plus être expulsés.
Ah non, enfin, ils vont être expulsés pour Dieu,
hein.
Le joueur violent, lui, il sort.
Oui, mais ça impacte moins ton équipe, quoi.
Non, mais ça modifie les comportements, non pas individuels, parce que celui qui va prendre un carton rouge, il va sortir. Mais ça va modifier les comportements collectifs, puisqu'un autre garçon, au bout de 20 minutes, va le remplacer.
Eh bien, nous verrons.
Nous verrons. Ok, voilà. On en reparlera dans cette émission.
Laissons sa chance au produit, quoi.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous raconter cette histoire assez étonnante et assez effrayante. La star du marathon, Kipchoge, menacée de mort. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Bah, tu vas m'expliquer.
Voilà, c'est
pareil.
Ok.
Oui, explication.
Ok.
On t'écoute.
C'est avec émotion qu'Eliud Kipchoge, double champion olympique du marathon, faut le rappeler, s'est confié au micro de BBC Sport Africa. C'était mardi, l'ex-recordman du monde de la discipline a évoqué avec beaucoup d'inquiétude les menaces de mort qui pèsent sur sa famille depuis la mort de son compatriote Kipton. Certains estimaient qu'Eliud Kipchoge faisait partie d'un complot visant à tuer le recordman du monde du marathon. Mmh. Voici ce qu'il dit et après je vous raconte l'histoire. J'étais choqué par que les gens disent sur les réseaux sociaux que j'étais impliqué dans la mort de ce garçon. J'ai reçu beaucoup de mauvaises choses. Ils brûleront le camp d'entraînement, ils brûleront mes investissements en ville, ils brûleront ma maison, ils brûleront ma famille. Pour rappel, Kipton est décédé en février dernier dans un accident de la route, 4 mois après avoir battu le record du monde du marathon, détenu alors par Kipchoge. Cet épisode a directement bouleversé le quotidien du coureur kényan, qui pour l'instant n'a pas changé de lieu d'entraînement, mais il estime en revanche avoir perdu 90% de ses amis depuis la mort de son compatriote. Voici ce qu'il déclare également. C'était vraiment douloureux pour moi d'apprendre que les mauvais mots venaient d'eux et de mon propre peuple. peuple, de mes camarades d'entraînement, de ceux avec qui je suis en contact. Je précise qu'il y a eu une enquête après cet accident de la route et que 3 personnes avaient été interpellées pour évidemment vérifier certaines informations. Marie Martineau.
Dark side des réseaux sociaux et qui met toujours encore plus l'accent sur le complot, le complotisme. Avant, tu te serais retrouvé tout seul avec des idées complotistes et maintenant tu arrives à trouver d'autres personnes qui éventuellement penseraient comme toi par le biais de la toile, des réseaux et d'un seul coup tu te sens fort parce que tu t'es regroupé en un espèce de groupe qui pense avoir les raisons vraies de pourquoi ce jeune homme serait décédé et forcément c'est la faute de l'autre parce qu'il était jaloux et voilà et sauf que ben c'est vraiment triste parce que pour le coup je pense que il était très sincère dans sa déclaration et que ça l'affecte particulièrement et c'est dark side.
Forcément ça l'affecte. Le 3 mars dernier il a participé au marathon de Tokyo, il avait terminé 10e. Pour le commun des mortels, c'est plutôt pas mal. Pour lui, c'est son plus bas classement depuis le début de sa carrière en 2013. Il a dit « c'est la pire position que j'ai jamais eue ». Fin de citation. Et sachez qu'on prononce, hein, je me suis un peu trompé, Kiptoum. Voilà. Et si vous voulez tout savoir sur le running, vous pouvez retrouver le podcast RMC Running avec Benoît Boutron qui cartonne évidemment en podcast. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous précipiter sur ce podcast et de nombreux, notamment Christophe Cessieux avec Entre les poteaux, voilà, où on parle de rugby. Ou alors le golf, hein, le practice RMC. Voilà, je fais un petit peu de
dans ton podcast, promo,
les copains. Mais c'était important en tout cas de vous donner cette information, l'une des informations de la semaine.
RMC, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le troisième but de Mbappé et l'ouverture du score de Kylian Mbappé.
C'est comme ça que la légende a commencé.
Je voulais vous annoncer à tous que c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger.
Et c'est maintenant que tu reviendras en rampant.
Je joue mon dernier match au Parc des Princes dimanche.
Parfaitement, tu te traîneras à quatre pattes.
Mbappé ! Et le 3 ! Et le 3 pour Kylian Mbappé !
Il est parti pour de bon.
Mbappé !
Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu.
La gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible.
Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Pour beaucoup d'entre nous, vous êtes une légende.
Et le voilà, le but de Kylian Mbappé, le libérateur.
Il est parti.
L'amour dure 7 ans, paraît-il. Alors après cette année, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG. L'amour entre le joueur et son club n'aura pas duré aussi longtemps. Un mélange de passion, parfois, d'admiration, beaucoup, et d'incompréhension. Aussi, un joueur hors norme qui a pulvérisé tous les records, collectionné les récompenses nationales, toujours sur le toit de la France, mais jamais sur le toit de l'Europe. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Kylian Mbappé part-il comme une légende? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Marie Martineau.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Olivier Giraud.
Du PSG, oui.
Florent Gautreau est toujours avec nous pour nous parler de foot. L'ami de l'after, oui ou non, Florent?
Non.
C'est non. Alors avant de débattre, juste vous donner quelques chiffres, car Kylian Mbappé, c'est beaucoup de buts, vous le savez, en championnat et en Coupe d'Europe. Déjà, avec son expérience au Paris Saint-Germain, c'est 306 matchs, 255 buts, 108 passes décisives. C'est absolument étourdissant. Rayon palmarès, 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 3 Trophées des Champions et 2 Coupes de la Ligue. Oui ou non? Pourquoi oui, Pascal Duprat?
Bah, simplement pour ce que tu viens de dire, ces stats, bien entendu. Mais aussi, je vais rejoindre Marie quand on parlait de Jules, parce que la jeunesse, quoi qu'on en dise, elle sera toujours marquée, à jamais marquée par Mbappé, par ses stats fantastiques, ses envolées fantastiques, cette dextérité devant le but. Voilà un gamin qui est d'une précocité incroyable, parce que tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas fini de progresser encore, il n'est pas au sommet de son art.
Ok, c'est simple, c'est concis, c'est clair et tu pourras réagir évidemment. Christophe, pourquoi non ?
Non, parce que ce que je disais tout à l'heure, pour qu'il parte comme une légende, il aurait dû amener au moins le PSG en finale de la Coupe d'Europe. Et là, il part un peu une main devant, une main derrière, tu vois. C'est un peu le sentiment qu'on a. Évidemment, quand tu regardes ses stats, c'est sans doute le plus grand joueur qui ait jamais eu au PSG en termes de nombre de buts, en termes de titres amassés. Mais on n'attendait pas de ça. On n'attendait pas que ça de lui. On attendait qu'il amène le PSG tout en haut.
Mais tu
tout
en haut. Beaucoup, qui... Il n'avait pas d'équipe autour de lui. En tout cas, pas l'équipe.
Ah non, c'est lui qui a dégagé tout le monde. T'es gentil.
Non, alors là, je suis pas d'accord. On l'a invité à choisir. C'est pas pareil. Donc la responsabilité, elle est partagée avec ses dirigeants.
Mais donc voilà, pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui part au sommet du truc en disant ok, je vous ai fait gagner ça, les gars. Remerciez-moi et maintenant je vais ailleurs.
Mais voilà, pas forcément dans un club. C'est vrai, mais pas forcément dans un club. On n'est pas obligé de gagner quand on part.
C'est une légende de l'équipe de France, Kylian Mbappé. C'est une légende de l'équipe de France. Il a fait gagner la Coupe du Monde. Il les a même amenés dans cette finale incroyable contre l'Argentine. Ils n'ont pas gagné. Mais tout ce dont on se souvient de ce match, c'est les buts de Kylian. Il a relancé le suspense. Là, oui, une légende des Bleus. Mais c'est pas pour moi. Il part pas comme une légende du Paris Saint-Germain.
Ok. Marie Martineau.
Question pas simple. Je crois que dans le mot légende, il y a aussi la dimension symbolique, l'enthousiasme que tu génères, le côté indiscutable. Et malheureusement, en tout cas factuellement, je crois qu'il n'a pas forcément toujours été indiscutable. Combien de fois j'ai entendu des gens qui autour de moi, quand on matait le match, disaient lâche la balle, donne-lui. Et tu vois, il était quand même très souvent remis en question sur sa façon de faire, dans son body language, de ce qu'il a dégagé pendant toutes ces années.
Légende, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité.
Ouais, je crois que dans le mot légende, il y a vraiment c'est indiscutable, c'est l'unanimité.
Manchester United, il y a un joueur qui s'appelle George Best. Crois-moi, il faisait pas l'unanimité parce qu'il buvait comme un trou, il fumait comme un pompier et il était pas exemplaire.
Drôle,
pourtant,
par exemple,
c'est une légende.
Il était très très drôle
parce qu'il était charismatique.
Kanto à Manchester United est parti comme une légende du club aussi, pareil.
Oui.
Tu vois, peut-être que Zlatan est parti comme une légende en ayant réussi à imposer quelques...
En tout cas, c'est
autoproclamé,
parti comme une
légende. Ouais, mais ça, on le connaît, c'est sa façon d'être rigolo, mais en ayant réussi à imposer quelque chose, en ayant fait progresser le club sur plein d'aspects, en ayant amené des choses différentes. Mais je sais pas, je vois Olivier me regarder d'une manière très très chelou.
Alors, il y a un joueur français qui a explosé toutes les stats qui existent au PSG depuis toujours, et on arrive encore à trouver toujours que le joueur étranger qui a... Alors, lui... Pour le coup, moi j'ai adoré Zlatan, hein. Mais lui, il a déféqué sur le tapis français carrément. C'est-à-dire qu'il s'est payé la tête de tout le monde et on dit il part comme une légende. Je trouve ça fantastique. On a un joueur français qui éclate toutes les stats et lui c'est pas une légende. Par contre Zlatan c'est une légende. Après être une légende pour moi c'est quelque chose qui arrive à la fin de ta carrière. À part en club, quand tu quittes le club, est-ce que tu es une légende du club ? C'est est-ce que ton maillot, il va être accroché au Hall of Fame du club ?
Oui.
Évidemment que celui de Kylian Mbappé, il va être accroché.
Donc, légende du club.
Donc, il sera une légende du club. C'est-à-dire que sinon, il y a zéro légende au PSG.
T'as compris, Christophe ?
Je sais pas.
Zéro légende au PSG. Et la légende, sa légende à lui, il a quoi ? 24, 25 ans ? C'est dans les 5 ans qu'on va venir.
Je pense qu'il doit l'écrire, sa légende. Elle est loin d'être écrite et il a encore beaucoup de choses à apprendre.
Mais est-ce que c'est trop tôt pour dire que c'est une légende et
mais non, il part. Mais au PSG. 7 ans, il part, il ne reviendra pas. C'est, aujourd'hui, tu peux dire si tu as son maillot.
Est-ce qu'il nous faut un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour dire et affirmer.
Tu sais ce qu'on va bien digérer et ça va rassurer beaucoup d'auditeurs qui en ont assez d'entendre parler de Kylian Mbappé. Et bon, on va les rassurer. Il va falloir trouver des sujets l'année prochaine. Il va falloir trouver des sujets.
Il y a plein d'autres sports.
Moi, je vous dis.
Il y a aussi le contexte qui lui est défavorable à l'instant T. C'est que sur les deux sur les doubles, la double confrontation contre Dortmund, il a été transparent.
Oui.
Donc ça ne joue pas en sa faveur. Oui. Mais si on veut être un peu plus...
Mais sa faveur immédiate, c'est pour ça que je dis qu'il faut
oui,
un petit
oui,
peu
mais
de
partir
temps.
Comme une légende.
Mais là, la question, c'est pour la légende aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça.
Exactement. Est-ce qu'il part comme une légende du PSG?
La question pour le PSG, pour moi... Si tu veux, la légende du PSG, déjà, c'est pas de savoir si Mbappé est une légende. Est-ce que dans l'histoire du Paris Saint-Germain, effectivement, il entre dans le cercle, on va dire, des légendes? En fait, il y a une partie qu'on n'a pas du tout évoquée et qui revient à notre premier débat sur sa vidéo et son annonce de départ. Au-delà des stats et du palmarès, de tout ce qu'a dit Pascal, de ce que t'as rappelé Jean-Christophe sur les chiffres qui sont incroyables, ok? Ça en fait un top joueur du Paris Saint-Germain. Un top joueur. Mais des top joueurs, si je vous fais une liste, il y a Wea, Ginola, Rai, Sujic, Zlatan, Paoletta, Ronaldinho, Bernard Labat, Mustapha Dalem, Thiago Silva. Et lui va être très haut d'ailleurs dans cette top liste. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus? Pourquoi Sujic et Rai sont des légendes du PSG? Parce qu'il y a justement toute la dimension affective, tout le lien très fort qu'il n'y a pas avec Kylian et qu'il n'a pas su construire, comme on l'a dit tout à l'heure.
C'est-à-dire pas le même monde,
c'est
Florent,
pas une légende, c'est-à-dire que le club monde. Reste... Pour moi,
ça veut dire qu'il y avait à cette époque-là, il y avait aucune communication extérieure. Tu ne jugeais qu'un joueur que sur ce qu'il faisait sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Si tu compares Sujic à ce qui se passe aujourd'hui avec l'hypermédiatisation de la vie à côté, comme vous le faites tous les jours sur les plateaux de commenter s'il est parti en train, s'il est parti, ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer Sujic. Si aujourd'hui Mbappé avait joué à la place de Sujic,
bien sûr que tu peux le comparer parce que
en termes d'amour des supporters,
je suis pas d'accord.
Ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que le club est au-dessus. Et Kylian Mbappé, et ça, effectivement, c'est à cause aussi des dirigeants et de Nasser, de la façon dont ils ont géré le business avec lui, en ont fait un joueur, à un moment donné, plus important que le club. Et ça ne peut pas exister. Totti, à la Roma, c'est une légende, mais la Roma reste au-dessus de Totti. Mbappé a cru à un moment donné qu'il pouvait être, parce qu'on lui a permis ça, au-dessus du club. Et ça n'est pas possible. Donc, pour être une légende derrière, comme tu l'as dit, on le jugera sans doute plus tard. Mais pour que les gens disent plus tard, c'est une légende, il faudrait qu'il y ait ce lien, un lien très très fort, qu'il n'a pas su tisser avec les supporters, pour plein de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Parce que c'est un individualiste, parce qu'il pense justement à ses stats. Moi, je trouve justement intéressant qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas son palmarès, qui n'aient pas ses statistiques, et qui soient restés dans le cœur des supporters comme des légendes du club. Malheureusement pour lui, je pense, qu'il va rester, évidemment, t'as raison, son maillot, le top joueur, un moment incroyable, un palmarès incroyable, des stats, je crois que c'est 0,80 buts par match, enfin, à un moment donné, c'est un truc de fou, ok. Mais justement, c'est intéressant de voir que malgré tout ça, il aura manqué le truc affectif qui fait le lien, qui fait que les gens l'aiment et les gens diront « Ah, Mbappé, c'était vraiment le Paris Saint-Germain ».
Alors, c'est vrai,
mais... T'as ça avec, effectivement, tu l'as, ne t'en déplaise, mais tu l'as avec Sujic et avec Rai et avec Luis Fernandez, qui a des stats beaucoup moins brillantes, mais qui a fait gagner le PSG à des moments beaucoup plus compliqués, en Coupe de France notamment.
Mais ce que disait, je te laisse la main, Olivier, ce que disait Pascal tout à l'heure, qui est très juste tout de même, c'est que nous, on évolue parfois dans un cercle, on se plaint que les politiques soient un peu déconnectés de la réalité, et parfois aussi dans nos débats, on essaye de ne pas être déconnecté, mais parfois on l'est un peu, parce que vous savez, on est dans la bulle médiatique, oui. Et parfois c'est assez compliqué de savoir ce que ressentent les gens. Ok, sur le côté émotionnel, et certains supporters du Paris Saint-Germain s'en sont déjà pleins.
Non, mais je trouve que tu vas dans une cour de
récréation. Non, mais tu vas dans une cour de récréation.
On entend Mbappé, il y a des maillots Mbappé sur les gamins, bien sûr.
Et Jean-Christophe, ça, c'est pas forcément les supporters du PSG. Ta question, c'était une légende du PSG. Moi, tu as totalement raison, j'allais te le dire. Les gamins dans les cours de récré, en général, qui n'ont aucun lien avec le PSG. Tu vas dans la rue, ils te parlent de Mbappé, ils l'idolâtrent. Ok. Sauf que là, on te parle, est-ce qu'il reste une légende du club, tu vois, au sens footballistique du terme, avec les fans du PSG? Bah
on
là, t'as raison.
On va avoir un élément de réponse demain. Vous allez voir si le public lui réserve une ovation.
Non, et puis au-delà de ça, je crois que Mbappé représentait le club à lui tout seul. Tu l'as bien dit, Flo. Mais le club avait cette ambition de Ligue des Champions. Et quelque part, il y aura un goût d'inachevé. Et tu ne peux pas être une légende en laissant un goût d'inachevé de on n'a pas réussi à aller la chercher, celle-ci. Et il symbolisait vraiment l'espoir de réussir à aller chercher ce truc-là. Et donc, légende, on n'y est pas. Même
Olivier
pour
Giraud.
Le club.
il faudra du temps pour qu'il soit une légende. Et la preuve, il suffit de prendre les exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as David Njonala qui arrive au stade, tout le monde dit que c'est une légende du club. Moi, je me souviens très bien des commentaires des journalistes quand David Njonala est venu.
RMC, je m'en souviens
comme si c'était hier. Je me souviens du. Aujourd'hui, tu vois Bernard Lama qui arrive au club. On dit que c'est une légende du club. Je me souviens des tifos qui avaient marqué sur Bernard Lama. Il n'est pas parti comme une légende, hein. Aujourd'hui, on se souvient, c'est marrant l'histoire, on se souvient que des bons moments. On se souvient de Casque d'Or. Casque d'Or, il a souffert au PSG. Et il n'y a personne qui est parti. Personne.
Autant, un mec qui marque un but décisif comme Comboiré, c'est pas, ça ne devient pas une légende.
Ouais, ouais, bah, voilà, je peux te dire.
Faut faire attention, faut pas galvauder.
Mais t'as vu, Ginola. Hein, Ginola, tu te souviens des commentaires à l'époque sur
le sujet,
il gère trop le ballon.
Il fait des
amortis devant le truc. Tout le monde, les journalistes, on lui en mettait plein le
dos. Il y avait un délit de sale gueule, et notamment en équipe de France.
Délit de belle gueule.
Moi, j'aimerais. On verra demain, à l'occasion du match du PSG demain, on verra l'ovation qui sera réservée, j'en suis sûr, à Mbappé. C'est bien les supporters qui seront au stade demain derrière les buts. Donc, on va voir. On va voir ce qu'ils vont penser après cette annonce.
Même s'il y a une ovation, regarde le simple fait qu'il ait voulu faire cette vidéo presque par peur, pour préparer un terrain, parce que si c'était naturel, il n'aurait rien fait. Il serait arrivé demain, si ça avait été évidemment la légende aimée, adorée du PSG, il serait arrivé comme un prince dans l'enceinte, gagner ou pas gagner la Ligue des
Champions. Florent, tu lui prêtes...
Il aurait pleuré dans le stade.
Mais t'es absolument certain de ce que t'avances, qu'il est allé là pour se préserver.
Ah, c'est ce que nous disait Arthur tout à l'heure.
Hier, il est allé voir les supporters pour ça.
Non, mais il était obligé.
Il y avait les gens de son doc qui étaient là derrière.
Oui, mais le truc a été... Est-ce qu'il n'était pas tenu par le club d'y être présent?
Non, mais il était surtout obligé de l'annoncer officiellement. Il était obligé de l'annoncer officiellement.
C'est sa communication, justement, c'est ce que je te dis, parce qu'il y a
quelque chose pour comprendre. Ok, d'accord.
Donc en fait, il était obligé, parce que là, sinon, il ne pouvait pas y avoir de cérémonie. Parce qu'en fait, il n'a jamais annoncé qu'il partait. Alors qu'en annonçant, c'est pour ça qu'une communication à la hâte a été programmée en fin de semaine, pour annoncer qu'il part, comme ça, il peut y avoir une cérémonie au Parc des Princes. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé.
Il y a deux raisons. Tu as tout à fait raison, organisationnelle, mais il y a aussi le fait que, contrairement à d'autres joueurs pour lesquels, évidemment, naturellement, parfois même après un but, comme je l'ai dit pour Di Maria ou Rai, qui ont explosé en sanglots et le stade explosant avec eux, il n'y avait pas la certitude d'avoir quelque chose de totalement parfait. Donc, en faisant ça, quelque part, il arrondit les angles, il leur dit, il fait un petit mea culpa, il va voir les membres du CUP avec ce fameux barbecue. C'est ça que je veux dire. Si tu es une légende indiscutable, comme disait Marie Martineau, et elle a raison, parce que ça ne se discute même pas, c'est comme ça, eh ben, il est évident qu'en dehors du fait d'annoncer, même par communiqué, le fait que tu vas partir, tu sais que derrière, quand tu vas rentrer dans l'arène, les mecs ils vont se lever et ça va être la folie. Ce sera pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas un top joueur, un énorme joueur dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais à mon avis, quand Thierry Henry a dit récemment, justement, il a dit c'est une légende, il l'a dit là, cette semaine. Et quand j'ai bien lu ses propos, ben, en fait, il a défini ce qu'était un très bon joueur, un très grand joueur.
Mais pas une légende.
Il a dit ce sera le meilleur joueur du PSG, mais pas une légende.
Ok, Emilien nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Emilien.
Oui, allô, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vas-y, à toi.
Alors, je ne comprends même pas comment on peut se poser la question. Les stats, c'est sûr, mais 6 ans PSG, 6 ans meilleur buteur du PSG, mais 6 ans meilleur buteur du championnat. Des jeunes qui devaient être des légendes, on en a eu des Le Talec, des Gourcuff autant de talent qu'Mbappé, certainement, sur une ou deux saisons, mais sur aussi longtemps, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Maintenant, il y a tout a été dit juste avant dans votre débat. On n'est pas dans la même époque. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On n'a qu'à voir un président avec toutes les fake news qui sort. Alors, un joueur de foot, c'est encore pire, il galvanise les passions. Mais Mbappé, il a tout fait. Par contre, il se déplace. J'ai pas mal d'amis qui se déplacent pour faire des choses avec les enfants malades, tout ça. Il est tout le temps avec eux. Il se déplace tout le temps dès qu'il faut faire un truc. Je suis chef d'un restaurant inattendu, venu à Vitrenne. Je l'ai placé.
Bien joué.
Tranquillement. Je connais des gens qui font à manger pour lui, que ce soit en équipe de France ou quoi que ce soit. Il est disponible avec tout le monde. Il est humain avec tout le monde. Par contre, il a contrôlé son départ, il l'a annoncé lui-même, mais je veux juste rappeler à tous les journalistes qui en parlent que ça fait 6 ans que chaque année, il part au Real à partir de janvier. Il part au Real.
Mais ça, c'est pas de la faute des journalistes, ça, quand même. Je veux dire, il a entretenu le. Enfin, là-dessus, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis.
La première saison, il répondait.
Il a entretenu le flou sur son contrat pendant toute sa période, quand même. Enfin,
mais après, c'est sa négociation.
C'est sa stratégie.
Peut-être que vous aussi, sur RMC, s'il y a une radio concurrente qui vous appelle à un moment, vous jouerez un peu le
coup. C'est le cas.
Oui, il a voulu faire Jordan. Faut pas se leurrer, il a voulu faire Michael Jordan. C'est clair. Michael Jordan, c'est une légende. Il a voulu faire comme lui. Il a voulu créer sa marque. Il est en train de créer sa marque. Et on ne crée pas une marque en étant un personnage standard.
Normal. Ouais.
Il est pas standard. Déjà, il court sans scooter, le mec. Dire que la tête baissée, d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, il y a zéro légende au PSG parce que. Malheureusement, on n'a jamais gagné la Ligue des Champions.
Ok, ben voilà, c'était très clair. Dragster,
parce que scooter, ça va
moins. Par contre, je voulais revenir sur une chose, parce qu'on parlait de Rai, Pastore, Di Maria. Hein, c'est Florent quand on parlait tout à l'heure. On peut pas comparer non plus. C'est-à-dire que quand tu pars d'un club et que c'est ton dernier club, ou sinon tu pars pour moins bien, on prend l'exemple de Di Maria, il est parti pour moins bien. Rai était en fin de carrière. Pastore, il est parti pour moins bien. Lui, il part
c'est la fin
pour essayer d'aller plus haut. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir, encore une fois. Les émotions ne sont pas les mêmes.
Ok, ben voilà, vous avez pu débattre
mais
de
attends,
ce sujet.
Attends, il y a juste un dernier point.
Ah, mais, vraiment 10 secondes, je te jure.
10 secondes. Non, mais juste un dernier point sur l'attachement et sur le don de soi, sur le lien qu'il peut y avoir. S'il avait fait tout ça aussi, peut-être qu'il y aurait pas, la question se poserait pas. Comme là-dessus, il y a un doute, on l'a redit sur les matchs récents, y compris par rapport à son départ vers le Real. Comme ce doute existe, c'est difficile aujourd'hui de dire que c'est une légende, sans pour autant oublier que c'est un immense joueur dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
RMC, les grandes gueules du sport. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Sur RMC, le dimanche de 19 à 20h, c'est Bartoli Time.
Une heure d'info et de débat sport pour revenir sur les événements marquants de la semaine.
Avec la Dream Team Sport RMC et les meilleurs invités.
RMC Bartoli Time, c'est ce soir, 19h, 20h.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Mardi 21 mai, au Golf Park Robert Hersant, c'est le Tea Break avec RMC. Une journée caritative historique avec la présence de médaillés olympiques. Au programme, une compétition amicale de golf, des enchères caritatives d'objets de sport mythiques et une voiture à gagner avec un trou en un. Le Tea Break, mardi 21 mai avec RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, c'est le principe, et pourtant, elles vont devoir débattre, réagir sur l'émotion, sur ce que ça procure chez vous. Le guet-apens du jour, mon guet-apens pour vous, mes GG. Aujourd'hui, vous allez vite reconnaître. C'est ça.
Ensemble !
Aux couleurs de la ville de Marseille, du bleu, du blanc, des fumigènes, feux d'artifice, tout le long du Vieux-Port, hein, au milieu, et alors que ça va nous tracer donc cette arrivée du Bélème, qui on va avoir dans quelques secondes. De la fumée dans le ciel au-dessus du Vieux-Port, avec le passage de la patrouille. Et on voit Florent Manodou brandir la torche olympique.
Ah, c'est Marseille bébé.
Je suis pas déçu du peuple marseillais.
Y'a rien sans l'OM, à la vie, à la mort.
La flamme arrive, les jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français.
C'est incroyable, c'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que je vais brûler par terre dans pas très longtemps là.
Et ben voilà, roule-toi par terre, tranquillement. Il n'y a pas que la polémique Joule dans ce monde de brut. Une cérémonie grandiose, un moment de communion à Marseille mercredi pour l'arrivée de la flamme sur le sol français. C'est important aussi d'en parler. Des images époustouflantes, l'arrivée du Bélème dans le Vieux-Port, les feux d'artifice, la patrouille de France. Bref, une journée quasi parfaite pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. La veille pourtant, telle une sentence. Un sondage Elab pour BFM TV est venu obscurcir les préparatifs. Seulement 24% des Français se disaient enthousiastes à l'idée des Jeux Olympiques. 30% ont exprimé leur scepticisme, mais surtout, mes GG, 46% se déclaraient totalement indifférents. Cette arrivée de la flamme, est-ce que ça a tout changé ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Non.
Marie Martineau.
Faudra avoir le sondage du jour d'après, du coup.
Alors, un sondage est là, vient juste de me.
Non, ça va, je taquine.
Oui, la question, selon toi, est-ce que cette arrivée de la flamme ce jour-là, est-ce que ça a tout changé? Quand même.
Oui, je pense que oui.
Oui.
Tout changer, c'est trop.
Pascal Duprat.
Je pense clairement que oui.
Clairement que oui. Merci Pascal. Olivier Giraud.
Il était temps qu'elle arrive pour qu'elle montre son vrai talent, la flamme. Et là, je peux te dire que aujourd'hui, on était dans la préparation, maintenant on est dans l'action et ça change tout.
Ok, c'est un oui, c'est un non, c'est un peu plus long pour Olivier Giraud. Ouais, l'ambitieux Olivier Giraud et le trop long Olivier Giraud, c'est pas grave. Marie, pourquoi oui?
Je pense que c'est un tout. Ça va avec les campagnes de presse qui sont de plus en plus pressantes, justement, à la télé, dans le métro. Voilà, il y a un engouement, on sent du bleu-blanc-rouge, on parle de porte-drapeau, on parle de jeux dans les journaux, journaux JT. Genre de télé, enfin voilà, j'ai l'impression que ça y est, ça a vraiment lancé le truc et il était temps et en même temps je pense qu'avant c'était trop tôt. J'étais la première cet hiver à me dire tiens c'est bizarre, ça prend pas, je commençais à pas flipper mais à me dire tiens ici pour la première fois dans l'histoire de l'humanité finalement les jeux n'emballaient pas et parce qu'on est français, on est différent, on est bizarre, je sais pas, et au final je crois juste que c'était très bien fait, que c'était trop tôt et que là ça y est on rentre dans le truc. L'arrivée de cette flamme c'est l'olympisme dans ce qu'elle a de plus intrinsèque, quoi. C'est Olympe, c'est vraiment tu vois, les dieux grecs et tout, et forcément ça fait appel à un référentiel chez un peu tout le monde, que tu sois de proche ou de loin.
Et ça nous a donné aussi un aperçu de ce que pourront être les festivités, le spectacle grandiose et aussi la sécurité. Il y avait énormément, pour avoir été sur le Vieux-Port, il y a énormément de sécurité et tout s'est bien passé dans une ambiance festive. Mais est-ce que ça a tout changé? Est-ce que ce jour a tout changé, Christophe? Encore des douces.
Ouais, non, alors c'est en train de changer doucement et je pense pas que ce soit l'arrivée de la flamme à Marseille qui change tout. Petit à petit, tu sens que la France est en train de s'arroger ses Jeux Olympiques et je pense que le parcours de la flamme dans tout le pays qui va traverser des villages et pas seulement les grandes villes mais aussi des petites villes, les gens vont pouvoir voir la flamme s'approcher de chez eux. Et là,
les
ça
Antilles
va,
aussi.
Mais toute la France.
Tous
la France,
les territoires ultramarins.
Ultramarins et territoires métropolitains. Voilà, c'est ça qui va faire que les gens vont être intégrés à la fête. Là, pour l'instant, c'était les Jeux de Marseille la semaine dernière. Après, ce sera les Jeux de Paris. Mais en attendant, ça va être les Jeux de tout le territoire français. Et c'est peut-être comme ça que tu vas intéresser les gens. Après, moi, j'ai jamais été inquiet parce que l'engouement pour les Jeux Olympiques dans n'importe quelle ville au monde, il se produit quelques semaines avant. Et puis, au moment, évidemment, de la cérémonie
d'ouverture, c'est maintenant, malgré tout,
si ça se passe bien, quand les compétitions vont commencer, ça va. Bah ouais, mais peut-être ça, qu'on parlera plus.
Ça a marqué
de
quand même. Ça,
de problèmes de sécurité.
J'imagine que ça a fait les journaux de 20h. Cette cérémonie, elle était merveilleuse.
C'est vrai que
la ville de Marseille est exceptionnelle. On l'a quelquefois, on l'oublie. Mais quand vous voyez les prises de vue du ciel, c'est juste majestueux, le port marseillais. Donc j'ai l'impression que là, ça y est, les gens sont fixés. Les Jeux Olympiques, oui, il fallait ça. Ça marque. Les Jeux Olympiques vont bien avoir lieu en France. Et comme souvent, eh bien, plus on se rapproche de l'événement, plus les gens vont être impatients parce que ça amène du rêve quand même, quoi qu'on en dise, cet événement sur notre sol. Et les gens vont répondre présent, ça va être magique.
Olivier.
Tout simplement magique.
Bah que, je vais dire un truc bizarre, en tant que Parisien, pas, mais les Marseillais savent faire. Ils savent faire, ils gagnent peut-être pas de titre au foot depuis un bout de temps, mais en termes de ferveur, ils sont exceptionnels et ça faut le reconnaître et je trouve que c'est un beau symbole d'être passé par Marseille et que ça soit arrivé là. Et ben c'est un beau défi pour tous les Parisiens. Quand la flamme arrivera à Marseille, il faudra être bon parce que les Marseillais, ils ont été bons.
400 villes hein, qui vont être parcourues par la flamme olympique durant 78 jours, pardonnez-moi. Et nous sommes maintenant très proches des Jeux Olympiques. Oui.
Tu vois comment cette flamme, elle a éteint l'antagonisme qu'on connaît très bien entre Paris et Marseille, et qui est récurrent, et que les gens sont plus ou moins touchés, mais bon, qu'on connaît. Et j'ai trouvé que.
Ça reste un peu
quand
même. Ils ont passé
peu,
la journée à chambrer le PSG.
Il y avait plus de la chambre, bien sûr, mais dans la joie, la bonne humeur, quelque chose.
T'as dû passer une sale journée, toi, quand même.
Ouais, je trouve que c'était dans la joie, la bonne humeur et qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand et ça s'impose à nous, l'olympisme, et c'est chouette pour le meilleur.
Non, encore une fois, c'est merveilleux. Et le fait que ça passe dans 400 villes en France va ajouter au fait qu'en fait, on est dans les starts. Voilà, pour prendre une image. Voilà, on a envie presque d'en découdre. On est à la sortie de l'échauffement. On est à la sortie de l'échauffement et il va falloir passer à la compétition. C'est ce qu'on va attendre. Une fois que la flamme se sera baladée partout en France, c'est vraiment les Jeux Olympiques et son départ, la cérémonie d'ouverture qui importera à tous les Français. Et tout le monde sera là devant ses écrans ou ceux qui auront la chance d'être sur place. Ça va être quelque chose d'exceptionnel.
Et aujourd'hui, la flamme olympique passe dans un département qui n'a pas justement l'occasion très souvent d'avoir de grandes festivités. Elle est dans les Alpes de Haute-Provence. Elle va passer par Barcelonnette, par Digne, par Fort-Calquier et par Sisteron avant de terminer sa course à Manosque. Et ça, voilà, pour impliquer tous les territoires, c'est indispensable. On n'est pas seulement dans les grandes villes.
Et dans cette émission, nous avons souvent parlé des polémiques, à juste titre, mais c'est important aussi de parler des choses qui marchent. Et ça, cette cérémonie mercredi était vraiment fantastique.
D'ailleurs, à ce titre-là, j'étais tout à fait content que Jules qui allume la flamme. J'ai dit une connerie tout à l'heure, c'était très bien.
Et t'as acheté tous ses disques. Ça y est, depuis il a acheté tous ses disques. Il a acheté tous ses disques et il met la
voilà, gâtiche. Non, non, bon, n'allons pas jusque-là. Mais allez, c'était très bien.
Très bien.
RMC, les grandes gueules du sport. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
Dès 9h, les grandes gueules du sport en direct du Mans pour le Grand Prix de France Moto. 12h15, cyclisme, la 9e étape du Tour d'Italie. 14h, retour à la MotoGP pour le départ du Grand Prix. Et à 21h05, rugby, le choc de la 23e journée de Top 14, Stade Toulousain, Stade Français Paris.
RMC, numéro 1 sur le sport. RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME ? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
MC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ont été faites ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. La dernière place, cuillère de bois, quatrième, Alaphilippe, Marie Martineau. Ça n'a pas pris, 16%.
C'est pas grave, on en reparlera plus tard.
Avec grand plaisir. Ça l'a pas pris.
Ouais, exactement.
La guéguerre des supporters, OM, PSG, content que l'autre se fasse sortir en Coupe d'Europe. Bizarrement, ça n'a pas pris, Christophe. Un débat foot pourtant.
C'est la dernière 20%. Fois que je prends un débat foot. Je ne parlerai plus jamais.
Mais oui, parce que tu n'aimes pas avec le foot.
Tu t'es rogné totalement.
Tu vas aller faire du vélo.
Mais c'était à contre-courant. Mais oui. Le vélo,
pourtant,
justement.
Pourtant, j'avais fait un truc très rigolo. Ça vous aurait plu.
Bon, le vélo non plus ne gagne pas. Pogacar qui se balade sur le Giro, 23%.
Pascal. Je voulais faire plaisir à Christophe, mais apparemment les auditeurs, non.
Ouais.
C'est comme ça.
Ouais. Deuxième place tout de même.
Oui, c'est mieux que d'habitude. D'habitude, je suis toujours dernier, non, c'est ça? Tu voulais la placer?
Non, j'allais dire barragiste. 41%, le grand vainqueur, 41%. C'est Olivier Giraud, l'ambitieux.
Boum.
Habib Bey.
C'est le sujet. C'est le sujet qui je pense,
il a eu le nez.
Qui vient d'annoncer qu'il allait quitter le Restart. Olivier Giraud, dis-nous le fond de ta pensée sur le cas Habib Bey.
Le cas Habib Bey, il vient d'une pensée de ses 10 dernières années d'entraîneur sur les bancs français. Les bancs français sont de plus en plus attaqués par beaucoup d'entraîneurs venus de l'étranger. Je ne pose pas que c'est un problème aujourd'hui, mais il y a vraiment cette différence avec les nouveaux directeurs sportifs qui sont aussi étrangers, et la place de l'entraîneur français se fait de plus en plus rare. Et ces 10 dernières années, finalement, ce qui a changé aussi, c'est la façon d'interchanger les entraîneurs en pleine saison, avec beaucoup de clubs qui changent d'entraîneur 4 à 5 fois par saison. Et finalement, être entraîneur français aujourd'hui, c'est devenu le plus important, c'est de rentrer dans cette boucle des entraîneurs interchangeables. C'est-à-dire que si on regarde par exemple les clubs qu'a fait Antoine Camboré, il y en a beaucoup. Si on regarde les clubs qu'a fait Der Zakaria, je parle de ceux qui sont en activité actuellement, et ben ils en ont fait beaucoup. Et finalement, ils rentrent un petit peu dans cette liste des entraîneurs potentiels interchangeables. Quelle place pour les nouveaux arrivants ? eh ben, Abibay peut-être est en train de changer ses codes, des codes qui sont historiques chez les entraîneurs français, chez le sacro-saint de l'entraînement français. Eh ben, lui, il annonce clairement la couleur et, comme tu le disais, ses ambitions. Se poser la question si c'est une bonne chose ou une nouvelle méthode, un nouveau paradigme de comment devenir entraîneur en Ligue 1, et ben aujourd'hui, ces entraîneurs se vendent, se placent. On parlera beaucoup aussi, est-ce que être à la télé ou à la radio aide à entraîner en Ligue 1? Parce que si on fait le comparatif de ceux qui entraînent et ceux qui sont passés par les places au télé, c'est assez intéressant. Mais on parlait du mode de communication des joueurs qui est en train de changer. Ne serait-on pas devant le mode de communication des entraîneurs ambitieux qui est en train de changer également?
Ok, c'est ton point de vue sur Abibay. Vous allez pouvoir évidemment réagir, mais GG, juste vous faire écouter le principal intéressé qui était l'invité il y a quelques jours de l'After. Voici ce qu'il disait sur ses ambitions à ce moment-là. Il n'avait pas encore dit non pour renouveler son contrat avec le Red Star.
Mon ambition, c'est d'entraîner au plus haut niveau, le plus vite possible. J'aurais pu partir déjà depuis 6 mois en Ligue 1. J'avais les opportunités pour le faire, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu partir en Ligue 2, je ne l'ai pas fait. Parce que je sais qu'il me faut du temps pour vivre ce que j'ai à vivre et surtout être un entraîneur bien plus près le jour où il connaîtra le très haut niveau.
L'ambitieux Abibay. Pascal, ça nous intéresse d'avoir...
Là, il a dit une chose et son contraire quand même. C'est très bizarre. Hein.
Oui, il a dit qu'il était très pressé,
possible,
mais il ne veut pas...
En même temps, j'ai fait exprès de ne pas y aller trop vite. Ce serait très bizarre.
Okay. Pascal.
En fait, à un moment donné, j'ai cru que c'était Mbappé qui parlait. C'est vrai, il a le même intonation de voix. En tout cas, c'est ce que j'ai considéré. C'est pas, comment dire, un délit que de rêver plus grand que soi. Donc, il est convaincu parce qu'il travaille qu'il est un super entraîneur et il est convaincu qu'il a la science infuse. Nous le sommes tous convaincus, tous les entraîneurs, à un moment donné, que nous avons la science infuse, parce que il faut ensuite convaincre des joueurs de vous suivre. Donc non, je vois rien de comment dire, de gênant. Par contre, je sais que dans la corporation, oui, Abibay, il gêne parce qu'il s'inscrit comme un espèce de donneur de leçons. Et je pense, j'imagine, j'ai déjà entendu certains collègues dire, bah, on l'attend au tournant, ils l'attendent au tournant, voilà, parce que Abib, je lui souhaite que du bon. Comme à tous mes collègues entraîneurs, mais il connaîtra aussi, parce que c'est ses premières expériences, et au Red Star, ça s'est formidablement bien passé, il monte de National en Ligue 2, et maintenant, peut-être qu'il va tomber dans un club de Ligue 1 où la potentialité, c'est peut-être de gagner un match sur deux, et c'est déjà beaucoup, donc ça veut dire qu'on en perd un sur deux, parce que ceux qui gagnent tout, ils sont très très peu nombreux, ceux-ci, ce sont des managers.
Ok, et Marie Martineau.
Moi, je me demande à quel point il se tire pas un peu une balle dans le pied, parce que il vaut peut-être mieux arriver tranquillement, faire le job et te placer, que annoncer la couleur avant de le faire, c'est plus compliqué derrière. Enfin, tu ne risques que de prendre retour de bâton. Bah oui. Et puis c'est vrai que alors, et ça n'engage que moi, mais quand j'écoute des matchs sur Canal et que il va très loin en fait dans son analyse et il nous fait des fois souvent même des grands cours de coaching et il fait le coach à la place du coach souvent
parce que c'est son rôle aussi, Marie.
Ouais,
je sais pas ce qu'on lui demande de faire. Je pense qu'il
le pousse à faire, à avoir ce genre de commentaire. Moi, je commande des courses et je me permettrai pas de dire ce que le coach devrait faire ou comment on devrait changer d'un run
coach,
sur l'autre.
Il est coach lui-même, donc
non, ce qui est con.
Ouais. Je sais pas, quand Pascal commentait, quand t'étais consultant, t'étais aussi coach.
Ouais, mais c'était difficile. C'est pour ça que, en tout cas, pour ce qui est du commentaire du match, où vous êtes obligé d'amener, une analyse tactique, votre analyse tactique. Donc, c'est difficile quand vous amenez une analyse tactique
de pas mélanger les gens,
pas froisser non plus, parce que les coachs ensuite ils entendent ce que vous avez dit.
Et puis, ce qui est compliqué, c'est également cette différence entre entraîner et coacher. C'est-à-dire que quand tu commentes la Ligue des Champions tous les week-ends, tu commentes Manchester City, le Real Madrid avec des managers, pas des entraîneurs. Donc tu commandes pas sous ton étiquette à toi, parce que pour l'instant, Abibay, force est d'admettre qu'il est obligé d'entraîner. Tu manages les meilleurs, mais t'entraînes les jeunes et t'entraînes les moins bons avec l'équipe que tu as. C'est-à-dire que dans sa manière de commenter, si un club le prend,
il le prend par rapport à sa vision de manager. Après, la vision d'entraîneur, elle est totalement différente. Donc, ça dépend du club et du projet qu'il veut avoir également. C'est-à-dire que cette pression...
S'il prend le PSG, il va pouvoir continuer. C'est sûr, parce qu'il gagnera beaucoup de matchs.
On entendait Marseille, par exemple. Marseille, c'est pas facile à manager cette équipe. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans son approche, aujourd'hui, combien de coachs comme Genesio, et il y en a plein d'autres, hein, qui ont été champions de France l'année et qui sont remerciés l'année d'après. Donc finalement, vu que les coachs, quels que soient tes résultats, sont interchangeables à merci aujourd'hui, et ben finalement, cette méthode de prendre un club le plus rapidement possible, quels que soient les moyens, quels que soient tes moyens aussi, et ben c'est peut-être ça le challenge de demain. C'est rentrer dans la danse des entraîneurs pour pouvoir y rester.
T'as compris, Pascal ? Il faut que tu te positionnes là pour le PSG, pour l'Olympique.
Dans la danse, j'y étais longtemps quand même, donc j'y suis pas. Je suis avec vous, je suis très heureux avec vous. Mais j'aime mon métier, donc oui, j'ai envie d'y retourner.
Et ben voilà,
c'est dit.
Tout ce qu'on te souhaite. Voilà, toi aussi, tu peux aussi prendre le micro et dire,
je suis
Pascal Duprat, ok les copains.
J'ai deux Habib Bay dans chaque pied, quoi. Tu pourrais.
Arrêtez.
On va te faire un texte.
Arrêtez, parce qu'ensuite après, vos propos sont repris et on me met partout. On me met à la tête de l'équipe de France féminine.
Ah oui, c'est vrai.
Donc arrêtez, s'il vous plaît.
Ok. Il vient en tout cas de se positionner pour
le Paris Saint-Germain
et l'équipe de France. On l'a bien entendu.
Je vois pas cette
émission.
RMC, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à tout à l'heure.
La matinale week-end sur RMC avec VVF. VVF, des vacances sport et nature et de belles